Chapitre 55. Ce matin-là, ce n'est pas le cri du coq de bruyère de la forêt de Cucufa qui réveille Ophélie, mais le brame d'un cerf. Elle ouvre un œil, puis l'autre. Par la fenêtre sans volet, le soleil pénètre dans la pièce au mur lambrissé. Elle se rappelle comment elle est arrivée dans cette nouvelle chambre, puis hume les draps propres qui sentent la lavande, se retourne et tente de replonger dans le sommeil. On frappe à la porte. Avant même qu'elle ait répondu, un visage triangulaire qu'elle ne reconnaît pas tout de suite la salue dans l'embrasure. « Ça vous dirait d'aller skier ?» Ophélie se relève sur les coudes, la main en visière pour protéger ses yeux gris clairs du soleil. C'est Jonathan. Le jeune homme, déjà habillé, porte une tenue fluo rouge et des lunettes de soleil relevées sur son front.
« Skier ?»
répète-t-elle en bâillant.
« Ça veut dire quoi, déjà? Je crois que j'ai vu ça dans des vidéos, mais comme j'ai essentiellement vécu sous terre et en forêt, cette notion m'échappe un peu. »
« On monte et on descend les pentes enneigées sur de fines planches, jusqu'à ce qu'on chute et qu'on se fasse mal, » répond le jeune homme avec un sourire.
Elle sourit en retour.
« Évidemment, c'est tentant. »
« Mais d'abord, commençons par petit déjeuner, » annonce-t-il.
Il ouvre la porte en grand et entre, chargé d'un immense plateau avec du café, une omelette, des croissants et un verre de jus d'orange, qu'il dépose sur le lit.
Le jus d'orange est de la poudre chimique à laquelle on ajoute de l'eau, mais le reste est fabriqué ici. Les œufs sont issus des poules locales et les croissants d'un boulanger qui utilise de la vraie farine produite à partir d'un petit champ de blé qu'on entretient sous serre, en dehors de la ville.
Ophélie prend une bouchée de croissant.
Délicieux ! Mon père prétend que tant qu'on mange bien, la civilisation ne s'effondre pas. Selon lui, c'est la gastronomie qui nous différencie des animaux. Après tout, nous sommes les seuls êtres vivants qui passent du temps à mélanger des ingrédients différents, à les faire chauffer, à les transmuter et à les servir avec un souci esthétique, au lieu de les dévorer tels quels dès qu'on les trouve dans la nature.
« Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, »
reconnaît-elle, amusée.
« Mon père est aussi un excellent cuisinier, »
ajoute Jonathan tout en s'asseyant sur le rebord du lit.
J'essaie d'approcher son talent. Je me demandais, comment jouiez-vous avant d'arriver ici? Comment vous nourrissiez-vous?
À Cucufa, nous avons réussi à cultiver la terre, mais nous produisions peu de variétés différentes,
admet-elle.
Et puis, il y avait les conserves que nous trouvions dans les maisons. De toute façon, maman est nulle en cuisine.
Ophélie hausse soudain les épaules d'un air agacé qui n'échappe pas à Jonathan.
J'ai senti au ton sur lequel vous vous parlez et à votre manière de vous regarder qu'il y a une certaine tension entre vous et votre mère. Je me trompe ?
La jeune femme réfléchit un instant.
Maman est dépassée par un monde qu'elle a elle-même engendré. Et puis, elle veut toujours tout contrôler. Elle ne fait pas confiance à la vie.
Ni à vous, ose Jonathan.
À son époque, elle était probablement parmi les plus avant-gardistes. Mais elle n'a pas compris que les temps avaient changé. On ne peut plus vivre comme on vivait il y a 25 ans, a fortiori après une guerre.
Je comprends. Mon père aussi est un peu dépassé par le monde tel qu'il est aujourd'hui,
dit le jeune homme.
Vous avez vu le gouvernement? C'est un club du troisième âge qui fait tout pour que rien ne change. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'éclairage électrique.
Comme s'il n'avait toujours pas intégré que reproduire les mêmes solutions engendrera les mêmes conflits. « C'est dingue !»
s'agace Ophélie en attaquant son omelette à grands coups de fourchette.
« C'est exactement ça, » approuve Jonathan. « Je suis pas le seul jeune ici, vous savez, et toutes les décisions importantes sont prises sans jamais nous consulter. Grâce à la médecine, Légitimus est toujours en bonne santé. Lui et sa bande peuvent encore régner 30 ans si on les laisse faire. »
Jonathan se lève et s'approche de la fenêtre.
Un jour, mon père m'a expliqué qu'avant, les gens râlaient pour un oui ou pour un non, et qu'ils le faisaient savoir par des grèves, des manifestations, voire des révolutions.
« Vous voulez faire la révolution ?» s'étonne Ophélie. Je veux inventer une nouvelle manière de vivre ensemble qui permette aux jeunes de s'exprimer et d'être plus créatifs. »
La jeune femme regarde Jonathan qui lui tourne le dos. Elle ne voit plus l'adolescent attardé avec son casque planté sur la tête de la veille, mais un homme dans la fleur de l'âge avec des convictions qu'il est prêt à défendre. Et ce changement lui plaît.
« Je vous attends en bas, d'accord ?»
finit par proposer Jonathan avant de quitter la pièce, le plateau dans les mains. Quelques dizaines de minutes plus tard, il se retrouve dans un magasin de matériel de ski. Jonathan lui choisit un gros anorak mauve, des chaussettes, un bonnet et des gants, des skis, des chaussures. Ophélie est impressionnée par ces dernières, aussi volumineuses que rigides. Enfin, elle est prête.
« Donc on monte et on descend, c'est ça ?»
dit-elle tandis qu'elle chausse ses skis.
« Le problème, c'est que les téléskis et les télésièges ne fonctionnent plus, faute de pièces de rechange. Et vos hélicoptères ?»
Ils sont rapidement devenus hors d'usage, de toute façon nous n'avons plus d'essence. La seule manière de monter reste donc de grimper à pied.
Ça doit être épuisant,
s'inquiète Ophélie.
C'est un coup à prendre,
la rassure Jonathan en fermant ses chaussures.
C'est vrai que certaines montées prennent une matinée entière pour une descente de quelques minutes.
J'ai peut-être une solution.
Ophélie déchausse ses skis et rejoint tant bien que mal, chaussures de ski aux pieds, le centre sportif où les aérials ont été installés. Elle retrouve Hermès et lui dit
« J'ai besoin de toi ».
Elle lui explique le projet. Hermès, d'abord intrigué, est vite amusé par l'idée de devenir un télésiège vivant. C'est donc porté à bout de patte par deux hommes chauves-souris qu'Ophélie et Jonathan partent skier. Deux autres aérials portent leurs skis.
« Je n'avais pas compris que leurs ailes étaient formées par une membrane tendue entre leurs très longs doigts !»
hurle Jonathan pour surmonter le bruit du vent et des ailes qui brassent l'air.
« Ils ont gagné des ailes et perdu des mains !»
répond Ophélie en criant à son tour.
« Mais ils ont développé leurs jambes et leurs pieds qui sont comme des bras et des mains de substitution !» Leurs orteils sont d'ailleurs longs et souples comme des doigts.
Ils volent au-dessus des sapins enneigés et l'air se fait de plus en plus piquant. Ophélie apprécie son gros anorak.
Je vais mettre une musique qui pourrait sublimer cet instant,
dit Jonathan. Il déclenche son smartphone. Une musique symphonique résonne dans le ciel.
C'est quoi ?
Demande Ophélie.
La musique du film Jonathan Livingstone, le goéland, créé et interprété par Neil Diamond. C'est parce qu'ils adoraient cette musique que mes parents m'ont prénommée ainsi.
Les deux jeunes gens savourent à fond cet instant où ils sont suspendus au-dessus des sommets immaculés, portés par des humains chauves-souris, avec la sublime musique de Neil Diamond en arrière-fond.
Où vous dépose-t-on ?
Demande l'aérial qui porte Jonathan.
Là ! C'est la pointe du Bouchet, un beau sommet. De quoi faire une longue descente.
Les deux aérials portent leurs passagers jusqu'au point désigné et les y déposent. Les deux autres, porteurs des skis, se déchargent eux aussi de leur fardeau. Ophélie ferme les yeux et prend une longue inspiration. Ici, tout lui semble pur, frais, clair. Elle rouvre les yeux. Ce panorama est ce qu'elle a vu de plus beau de toute sa vie.
Voilà l'endroit où la Troisième Guerre mondiale n'a pas encore tout gâché,
déclare Jonathan Wells. Hermès s'approche du couple. À quelle altitude se trouve Val Thorens ? Demande-t-il.
2300 mètres.
Et selon vous, ici, nous sommes à combien ?
Disons 3400 mètres.
L'aérial désigne un sommet plus au fond.
Comment s'appelle cette montagne ? Elle a l'air encore plus haute.
Elle l'est, c'est le Mont Blanc, le point le plus haut de France. Il culmine à 4800 mètres d'altitude.
L'homme chauve-souris regarde le sommet avec intérêt.
Je me demande ce qu'on peut voir de là-haut.
Malheureusement, impossible de s'y rendre à ski,
dit Jonathan.
À ski, non, mais à tire-d'aile, oui.
Répond Hermès, tandis qu'il fait signe aux trois autres aérials de s'approcher.
« Ça vous dirait d'aller là-bas ? »
Il leur désigne le Mont Blanc. Les trois approuvent.
Ok, les sapiens, nous allons rentrer en ville, nous équiper de bonnets, de gants et de gros anoraks bien chauds, et nous allons essayer d'atteindre le sommet du Mont Blanc. Quant à vous, si j'ai bien compris, vous allez descendre en glissant. On se retrouve ce soir pour dîner ?
Ils s'en vont. Les deux humains restent seuls.
Le dénivelé est quand même un peu impressionnant,
dit Ophélie. Nous allons prendre une pente douce pour que tu puisses te familiariser avec les sensations, la rassure Jonathan en passant au tutoiement.
Mais commence déjà par fixer tes chaussures sur les skis.
Il lui montre comment procéder et elle a l'impression d'avoir les pieds bloqués.
Tu sais, dit Jonathan en ajustant ses lunettes, ton idée d'utiliser les aériales comme télésièges vivants va leur permettre d'être plus facilement admis par les Valtorinois. Tous adorent le ski et ils peinent à monter les pentes à pied. Ici, le ski est une religion.
Je vais essayer de trouver d'autres idées pour promouvoir cette nouvelle espèce humaine auprès de l'ancienne, promet Ophélie.
Ensuite, Jonathan lui explique comment descendre en chasse-neige en utilisant les bâtons et comment prendre les virages. Elle tente de le suivre, mais chute à plusieurs reprises.
« Tu es trop crispée. Détends-toi. Laisse-toi porter par la pente. »
Ophélie parvient à dépasser sa peur et à trouver un certain plaisir à glisser dans la poudreuse.
« Très bien. Continue comme ça. »
Il lui explique comment garder les épaules face à la pente tout en maîtrisant son équilibre pour pouvoir à tout moment freiner ou s'arrêter.
« C'est plus facile que je le croyais !»
reconnaît Ophélie. Au fur et à mesure qu'elle surmonte ses appréhensions, son front, ses sourcils et ses lèvres se décrispent.
« Je me sens prête à essayer avec ta technique, les skis parallèles. Comment dois-je faire ?»
Jonathan prend le temps de bien lui apprendre le principe du virage ski parallèle. Le corps de la jeune femme enregistre le mouvement et les sensations. Après quelques dizaines de minutes de glisse, ils descendent tous les deux la piste en slalomant. Ils font une pause sur la terrasse d'un chalet-restaurant abandonné.
Ah, « Je commence à bien me plaire ici !»
déclare Ophélie. Au-dessus d'eux passent Hermès et ses trois compagnons d'exploration qui se dirigent vers le Mont Blanc.
« Je dois avouer que je les trouve très beaux, ces hommes chauves-souris à la peau si claire !»
dit Jonathan.
« Parmi les théories de maman, il y en a une qui m'a toujours intriguée. » Que le projet secret de Mère Nature serait de produire de la beauté. Ça expliquerait, selon maman, qu'il existe de si magnifiques papillons et des fleurs si merveilleuses.
C'est une jolie théorie, mais la notion de beauté n'est-elle pas subjective? Et puis la fonction esthétique des végétaux et des animaux n'a qu'un objectif, je crois. Les fleurs sont belles pour attirer les insectes qui vont les polliniser, et les oiseaux chantent mélodieusement pour attirer les femelles qui vont pouvoir féconder.
Certes, mais regarde ces cimes enneigées, si belles. Les montagnes femelles ne sont pas esthétiques pour attirer les montagnes mâles, il me semble.
Il rit de bon cœur.
Peut-être que si des extraterrestres venaient nous rendre visite, ils trouveraient ça très laid,
reprend le jeune homme.
Et cette impression de perfection esthétique provient peut-être seulement de la diversité présente dans la nature. Quand tu vas manger dans un self-service et qu'on te propose une multitude de plats, il y en a forcément que tu apprécies plus que d'autres. Donc tu ne taris pas d'éloges sur ce self, alors qu'objectivement, il est loin d'être un restaurant gastronomique.
Ton raisonnement se tient, admet Ophélie. On continue la descente? J'aimerais bien tenter une piste plus raide pour aller plus vite, c'est possible?
Jonathan éclate de rire.
Comme tu es intrépide, mais tu es instinctive et douée, alors c'est parti pour une piste un peu plus raide.
Ils s'élancent, filent dans les champs de neige. Tandis qu'ils s'arrêtent de nouveau pour admirer le paysage, ils voient un groupe d'une vingtaine d'aérials qui se dirigent vers le Mont Blanc.
« Oh, c'est extraordinaire !»
s'écrie Jonathan, impressionné par la nuée d'hybrides qui se déplace dans le ciel.
« Je crois qu'Hermès a convaincu tout un groupe de partir découvrir le sommet du Mont Blanc. »
Elle lance un salut dans leur direction. Le roi des aérials, à l'avant du groupe, lui répond par un looping.
Et comment fais-tu pour les reconnaître? J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous.
Plus tu les côtoies, plus tu apprends à les différencier.
Quant à Hermès, j'arrive désormais à l'identifier de loin car il est un peu plus grand que les autres et
Il a une manière de voler particulière. Il bat les ailes comme ça. »
Et elle mime avec les bras un mouvement ample et gracieux.
Alors que les autres volent plutôt comme ça.
Elle effectue des mouvements de bras plus mécaniques.
C'est comme reconnaître un humain par sa démarche ou un poisson par sa manière de nager.
Jonathan est amusé par la comparaison.
Et pourquoi se nomme-t-il comme le dieu de l'Olympe?
C'est maman qui en a eu l'idée.
Hermès continue d'effectuer des figures aériennes de plus en plus compliquées, comme pour l'impressionner.
Ta maman semble très attachée à ses chimères, dit Jonathan.
Elle répète depuis leur naissance qu'elle n'est pas comme Frankenstein qui avait peur de sa propre créature. Elle, elle les aime comme, comment dire,
comme ses enfants.
Peut-être même un peu plus, répond Ophélie.
Grâce à Hermès, nous connaissons cette sensation incroyable de voler. Et maman adore voler.
Hermès, après avoir effectué un signe d'adieu, reprend la tête de sa troupe d'aérials et s'éloigne. Ophélie lève le bras pour le saluer en retour.